don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的莫林达家
，Capron y Lucheri की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet, Hélène Paquer, réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Nouvelle semaine que nous allons consacrer aux animaux. Nous parlerons de la lutte contre le trafic d'espèces protégées, on parlera du droit animal, mais ce matin on va commencer avec cette délicate question de la cohabitation avec certaines espèces qui depuis quelques années font un retour en force, ce qui n'est pas sans troubler le quotidien de communautés qui les avaient un petit peu oubliées. Ours, requins, loups, le retour des grands prédateurs.
Tu as vu comme il regarde ma main ? Plus question de l'apprivoiser.
Quoi, tout s'est réveillé ?
Ça fait 4 nuits que les loups attaquent. Alors les chiens rassemblent les moutons et ils aboient pour les défendre. Hier soir, par exemple, j'ai vu 3 loups attaquer.
Ils veulent nous faire manger par les loups. Non, les loups, il faut les abattre. Mes parents sont là depuis toujours et ils ne m'ont jamais parlé des loups. S'ils entrent sur mon territoire, je les mets dehors avec mon fusil.
Il a traversé la rue ici, les voitures ont dû s'arrêter et puis il est allé par là.
Je pense que c'est un animal nuisible, donc on avait pratiquement réussi à se débarrasser en Europe. Et bon, de voir des réintroductions dans les Pyrénées ou ailleurs, ça me, voilà, j'aime pas.
Alors qu'il avait pratiquement disparu d'Europe de l'Ouest au XIXe siècle, le Canis lupus fait son retour un peu partout. Confiné pendant des décennies en Italie, dans la région en particulier des Abruzzes, les loups ont peu à peu étendu leur territoire. En France, on date sa réapparition officielle à 1992 dans les Alpes-Maritimes, au cœur du parc du Mercantour, mais les loups se déplacent vite et bien d'autres pays connaissent une recrudescence de la population lupine, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne. Alors ce retour n'est pas sans poser problème, en particulier pour les éleveurs dont les troupeaux sont régulièrement attaqués et dont les moyens de protection sont, de leur point de vue en tout cas, inefficaces et insuffisants compte tenu de leur nombre et des contraintes d'élevage. Alors comment garantir la défense du pastoralisme et la protection du loup ? Comment se protéger de ces prédateurs sans les éradiquer complètement ? Aujourd'hui, on a 2 textes qui prévoient leur protection, la Convention de Berne et la Directive européenne Habitat, Faune et Flore. Que prévoit-il précisément ? C'est ce qu'on va essayer de voir. Et puis au-delà du loup, on va s'intéresser également à l'ours, dont la présence, elle aussi, pose quelques problèmes. Et puis on quittera la Terre pour nous tourner vers les océans, où là aussi, le danger guette parfois. En effet, l'année 2015 a été celle du record d'attaques de requins. 98 attaques, dont 6 mortelles. C'est 10 de plus que le précédent record remontant à 2000. Comment comprendre cette recrudescence et quelles sont les stratégies des différents pays pour y répondre? On en parlera tout à l'heure avec Bernard Serret pour évoquer donc ce grand retour, ces retours des grands prédateurs et notamment du loup. On a invité avec nous en duplex depuis Poitiers, Farid Benhamou. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Farid Benhamou. Vous êtes géographe, vous êtes chercheur associé à l'Université de Poitiers, puis co-auteur avec Rémi Marion, qu'on aura tout à l'heure par téléphone à propos du loup, de géopolitique de l'ours blanc. Il y a quelques années, Farid Benhamou, vous avez soutenu une thèse intitulée « Crier au loup pour avoir la peau de l'ours », une géopolitique locale de l'environnement. Donc vous êtes intéressé à ces tensions qui peuvent exister entre la présence d'animaux sauvages, de prédateurs, et puis la protection de l'environnement, disons au sens large. Il y a quelques jours, Farid Benhamou, le groupe Europe Écologie Les Verts de la région PACA a publié un texte demandant que le loup ne soit plus une espèce protégée. C'est un texte qui est intitulé « La motion loup et pastoralisme ». Je vais en lire quand même quelques extraits. Europe Écologie Les Verts PACA réaffirme son engagement sans faille en faveur du pastoralisme présent depuis des millénaires dans nos espaces montagnards alpins et méditerranéens. Reconnaît que cette activité pastorale joue un rôle essentiel de structuration des milieux naturels. Rappelle que les grandes espèces emblématiques, loups, ours, lynx, etc., ne sont qu'un indicateur parmi d'autres de la biodiversité, constate l'échec de la politique actuelle de cohabitation forcée avec le loup imposée aux éleveurs qui a été menée en France depuis 20 ans par les différents gouvernements, En conséquence de quoi, nous dit-on plus tard, EELV PACA, Europe Écologie Les Verts PACA, donc, demande à ce que la France se mobilise pour que l'espèce Canis lupus soit sortie du statut d'espèce strictement protégée. Beaucoup d'observateurs, Farid Benhamou, ont été surpris de voir des écologistes se prononcer contre la protection du loup. On a là des membres d'Europe Écologie Les Verts, dont certains élus locaux. Que vous inspire cette prise de position, disons, en tout cas pour certains, inattendue?
Dans un premier temps, je dirais que le statut actuel du loup permet déjà une certaine forme de gestion, d'intervention, ce qui normalement ne nécessiterait pas ce déclassement qui est demandé par ce groupe local, faut bien le préciser, ce groupe local d'Europe Écologie Les Verts. En fait, ce que j'y vois en fait la patte de militants de la Confédération Paysanne. Ce syndicat, qui est en effet très proche des éleveurs et des petits éleveurs, lui-même a subi une espèce de guerre civile autour de la question des grands prédateurs, opposant en gros les partisans d'une cohabitation et les partisans d'une position plus radicale, hein, visant le déclassement, voire même l'élimination de certains grands prédateurs, et notamment du loup. Et au sein de la Confédération Paysanne, c'est cette voie-là qui a gagné, ceux les plus hostiles aux loups et aux prédateurs. Et donc, dans ce groupe local, en fait, il est particulièrement travaillé par des personnes qui sont aussi proches de la Confédération Paysanne. Et c'est ce qui explique, en fait, ce positionnement. Je connais bien la région et j'y ai des antennes. Et justement, j'ai un petit peu suivi les débats et j'ai vu un petit peu comment ceux qui étaient partisans du statut, on va dire, actuel du loup, ont été un petit peu débordés par ces militants, souvent double encartés, qui ont justement porté le texte que vous avez présenté.
C'est des débats, hein, vous m'en parliez juste avant de prendre l'antenne, des débats qu'on avait eu l'occasion d'entendre lors d'un faux procès du loup, vous nous racontez ?
Oui, alors c'était dans le cadre de la défense du service public, de justice, en Lozère, à Privas, le tribunal Florac, pardon, excusez-moi, devait fermer, et donc dans le cadre d'un débat citoyen, eh bien, on a invité des véritables juristes et puis des témoins, dont moi, l'ethnozoologue Geneviève Carbonne, José Beauvais et un berger éleveur local, pour justement échanger des points de vue divers, mais en débat, dans une excellente ambiance, même si les points de vue n'étaient pas du tout partagés, mais pour arriver en gros à la conclusion que ce type de question qui est très, très, très conflictuelle nécessite un véritable débat citoyen.
Une excellente ambiance, mais j'imagine quand même une ambiance tendue, parce que c'est un sujet qui tend beaucoup les personnes concernées. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce texte montre très bien les divisions qui peuvent exister au sein même des écologistes. Ce qui est vrai quand même, Farid Benhamou, c'est que la présence du loup, elle bouleverse tout un secteur économique déjà extrêmement fragile. On ne sait que trop les difficultés rencontrées par les paysans, par les éleveurs. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois. Oui. Et l'arrivée du loup a modifié quand même la gestion des troupeaux. On voit des éleveurs qui doivent les parquer désormais dans des espaces clos, alors qu'avant ils pouvaient les laisser en liberté. Ils doivent prendre des chiens de protection, qui est imposé par la réglementation si on veut espérer en tout cas toucher des aides en cas de perte de bêtes. On peut pas nier quand même que l'arrivée du loup a modifié considérablement l'environnement économique pour ces éleveurs.
Ça, c'est évident. Ça, vous avez tout à fait raison à ce niveau-là. On ne peut pas dire que l'impact du loup soit anecdotique. Pour vous donner un exemple une comparaison, l'ours cette année, ça va être 150 brebis. Victimes, alors qu'au loup, on est en plus de 8000. On est à plus de 8000. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique. Maintenant, ceci dit, il faut bien voir, comme vous l'avez vous-même rappelé, que le monde de l'élevage et le monde agricole n'a pas besoin du loup pour aller mal. Et même si le loup est en effet une contrainte, eh bien, on a des phénomènes structurels aussi importants, voire même plus importants, qui pénalise cet élevage, que ce soit les inégalités dans la répartition des aides de la politique agricole commune, les problèmes de débouchés, le vieillissement de la profession, et puis les crédits, les dettes, mais ça qui concerne tous les agriculteurs.
Alors que il y a quand même une différence, hein, Farid Benhamou, c'est que les problèmes que vous évoquez, qui sont réels, c'est pas des problèmes qu'on peut régler d'un coup de fusil.
Oui, mais même le coup de fusil ne réglera pas non plus la question du loup, parce que on peut. Cela dit, il faut pas l'exclure complètement. Hein, c'est-à-dire l'élimination, faut pas bannir totalement l'élimination d'un loup, notamment un loup qui viendrait être pris sur le fait en quelque sorte. Mais cela dit, sorti de là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met du poison dans toutes les montagnes et les forêts françaises ? Et est-ce qu'on envoie des armées de chasseurs et de gardes de l'Office national de la chasse ? Je ne suis pas sûr que ce soit non plus la solution. Et puis de toute manière, il y aura d'autres problèmes qui surgiront.
Je voudrais pointer du doigt, Farid Benhamou, peut-être la responsabilité de l'État, parce que que l'État savait très bien que le loup était en train de conquérir de nouveaux espaces, et pourtant il n'a pas semblé préparer justement les éleveurs à ce nouvel élément. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même de la part des autorités publiques un manque d'anticipation criant ?
Il y a les deux en fait, il y a les deux, il y a le manque d'anticipation, mais malgré tout il y a quand même, et grâce à la mobilisation et des éleveurs et des écologistes, tout à l'heure on pourra parler de comparaison au niveau européen.
On va le faire, oui. On va parler de l'Espagne, de l'Italie, etc.
Voilà, un dispositif d'accompagnement qui, même s'il est critiquable, est quand même malgré tout conséquent avec, bon, certes des aides, mais pas seulement des aides financières, mais également des aides techniques avec des chiens de protection, des clôtures, du gardiennage renforcé. Et bien évidemment, partout, ce n'est pas suffisant. Localement, parfois, ça peut être vraiment très 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 utile. Il faut pas du tout avoir un constat soit tout noir, soit tout blanc. Et en tout cas, ce qui est très clair, et c'est tout à fait juste, c'est que on a du mal à anticiper. On a beaucoup de mal à anticiper et on ne sait intervenir. Mais c'est pas uniquement sur la question du loup. On ne sait intervenir qu'une fois que l'incendie a commencé.
Alors que sur les équipements, je rappelle quand même, pardon, et je vous laisse poursuivre juste après. Sur les équipements, je crois que pour protéger les loups, vous parliez des chiens, vous parliez des enclos. Ce sont des équipements qui sont subventionnés, en tout cas en partie par l'État. Hein. Oui. Parfois même à 100%. Je crois quand il est question de parcs nationaux.
Oui, tout à fait. Que ce soit avec les pouvoirs publics nationaux, voire aussi parfois des pouvoirs publics locaux, voire des parcs naturels régionaux ou des parcs nationaux qui peuvent compléter ces dispositifs. En effet, il y a un certain nombre d'aides que l'on ne trouve pas forcément dans tous les pays.
Faisons un petit jeu de miroir avec le cas de l'Italie, parce que je crois que, je le disais tout à l'heure dans mon introduction d'ailleurs, en Italie, le loup a jamais complètement disparu. Il se trouve que la cohabitation justement avec les éleveurs est beaucoup plus facile. Quand on regarde justement le nombre d'attaques, les attaques de troupeaux sont bien moins nombreux en Italie qu'en France. Alors comment le comprendre ? C'est parce que précisément les systèmes de protection sont plus adaptés ?
Disons qu'en fait, tous les territoires qui ont toujours connu la présence du loup et des prédateurs sont par définition mieux adaptés, puisque ça passe sous perte et profit. Vous savez, c'est comme les intempéries, c'est comme des accidents, c'est comme des maladies. Ça fait partie de la nature en quelque sorte et de ces activités qui y sont confrontées.
Alors, les systèmes de protection ne sont pas totalement différents entre l'Italie et la France. On s'y prend de la même manière, alors, non ?
Non, parce que on n'a pas tout à fait affaire aux mêmes élevages. Et même en Italie, on n'a pas partout les mêmes élevages. Dans le cœur historique de la présence du loup, notamment dans les Abruzzes ou autres, on a affaire à un élevage laitier qui est très, très, très gardé, avec des traites, avec une très forte main d'œuvre, souvent d'origine étrangère, mais pas seulement, avec des enclos, alors souvent même en dur. Et puis, comme je vous le dis, une tradition de cohabitation. Plus aussi, parfois, on va dire qu'on s'arrange avec un petit peu de braconnage, en plus. En revanche, et pour l'Italie, les choses sont en train de changer puisque nous, on connaît l'expansion du loup, mais il faut savoir que les Italiens aussi connaissent l'expansion du loup, notamment dans toute la partie nord. Et dans toutes les nouvelles zones de colonisation, eh bien, ça ne se passe pas non plus si bien que cela. Et on a aussi parfois des tensions qui peuvent être fortes, même si au niveau local ou même au niveau des parcs nationaux, on a aussi des agents qui interviennent.
On va parler dans un instant des textes qui prévoient justement la protection des loups, mais peut-être un tout petit mot d'histoire. Avant, parce que je le disais dans mon introduction, au milieu du 19e siècle, le loup disparaît quasiment entièrement. En tout cas, du côté de l'Europe de l'Ouest, on n'en a presque plus, un tout petit peu effectivement en Italie, mais on n'en a quasiment plus. Pourquoi est-ce qu'il fait, il disparaît comme ça ? Et racontez-nous comment il fait son retour justement.
Alors, c'est intéressant parce qu'au plan européen, tous les pays ne sont pas égaux. Déjà, les îles britanniques, eux, ont réglé le problème assez rapidement. L'Angleterre, dès le début du 16e, et puis toute la péninsule, en gros, dans le courant du 18e. Donc, comme ça s'est expédié. En revanche, la France, elle, va avoir ses derniers loups jusque milieu du 20e siècle. Officiellement, c'est la fin des années 30, parfois peut-être un petit peu plus. L'Allemagne, elle, c'est la fin du 19e. En revanche, il est vrai que l'Espagne et l'Italie vont toujours garder un petit noyau. On peut faire peut-être le parallèle aussi avec la constitution d'États centralisés assez fort.
Et pourquoi il reste là ? Est-ce que c'est parce que, disons que la topographie est favorable au loup, ou est-ce que c'est parce qu'il y a déjà, de la part de ces pays, ce désir de protéger l'animal ?
Non. Je pense que déjà, il y a eu, je pense surtout, une efficacité dans l'éradication de certains pays. Je pense notamment à la France et aussi à l'Allemagne, mais particulièrement à la France, notamment à partir des années 1880, où en même temps, c'est parallèle à la lutte contre la rage. On veut vraiment venir à bout du loup. Parce que en Espagne, en Italie, le loup était aussi chassé. Mais il faut voir aussi que les structures foncières sont différentes. C'est-à-dire qu'en Espagne, en Italie, on avait aussi beaucoup de grands domaines avec une chasse qui était très très contrôlée et aussi réservée. Et d'ailleurs, ce qu'on retrouve aussi en Europe centrale, hein, c'est aussi un facteur qui peut expliquer ces maintiens dans ces territoires marqués par un plus grand féodalisme que dans des territoires comme la France. Mmh. Et à la suite donc de cette disparition du loup, qui est à la fois directe et indirecte, parce que indirecte, on a aussi détruit le milieu du loup, faut aussi dire cela, et notamment son alimentation, eh bien, petit à petit, avec notamment la déprise agricole, l'exode rural, on va voir les densités humaines diminuer, et eh bien, à partir de là, des espaces vont se libérer, et puis aussi, il y a un phénomène, je dirais, juridique qui est majeur, c'est que le loup va être protégé officiellement.
Mmh. Ça, c'est les années 70.
Officiellement. Mmh. Voilà, les années 70, milieu des années 70, et notamment en Italie, le loup est protégé. Et à partir de là, il va recoloniser toute une partie de l'Europe, c'est-à-dire la France, mais également la Suisse. Et donc, c'est vrai que l'Italie va être, si vous voulez, un noyau de colonisation très important. Et moi, je ne mettrai pas cela sur des facteurs religieux ou strictement culturels, comme on peut les lire un petit peu partout.
Donc la France, la Suisse, je le disais, l'Allemagne, la Pologne, voilà le loup qui va regagner tous ces territoires. Alors justement, tout les textes. Fait. En Europe, il y a plusieurs textes qui encadrent la protection du loup. On a la Convention de Berne de 1979, et puis on a depuis 1992, dans l'Union européenne, la directive Habitat, Faune, Flore. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement ce que disent ces textes s'agissant du loup ? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux.
Alors, la particularité de la directive Habitat, la différence entre la directive Habitat et la Convention de Berne, c'est que la Convention de Berne, elle est liée à des espèces, alors que la directive Habitat, elle est liée à des espaces et à des espèces, d'où son nom, directive Habitat. C'est-à-dire que, en fait, l'espèce en tant que telle va être protégée, mais aussi le côté remarquable de son milieu. C'est ça la grande différence. Et alors, cette directive Habitat, qui est un texte relevant de l'Union européenne, alors que la Convention de Berne, c'est une convention internationale, cette directive Habitat, eh bien, malgré tout, elle a une certaine souplesse. C'est-à-dire que, là on le voit aussi dans d'autres directives européennes, elle s'applique différemment selon les pays. Par exemple, quand l'Espagne est rentrée dans l'Union européenne, elle a négocié que le loup reste chassable sur une partie de son territoire, au nord d'un fleuve qui s'appelle le Duero. Et d'ailleurs, les nouveaux entrants en 2004 et 2007, qui étaient des pays d'Europe centrale et orientale, qui avaient aussi des populations de loups, ont obtenu aussi des statuts dérogatoires. Et la France, elle a eu elle-même une interprétation variée de ce texte. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle a eu une interprétation très stricte, en gros jusqu'aux années 2000-2004. Mais à partir de 2004, elle a utilisé les possibilités de souplesse, c'est-à-dire les tirs encadrés qui ne... En théorie, ne nuisait pas au statut de conservation de l'espèce.
Oui, parce qu'il y a quand même un paradoxe, c'est que dans ces deux textes, on interdit la mise à mort intentionnelle, je cite la formule, la mise à mort intentionnelle des loups, et en même temps, on voit très régulièrement des battues qui sont organisées pour tuer des quotas de loups qui sont décidés, alors en l'occurrence en France, par les préfectures. Donc il y a un véritable paradoxe là.
Alors oui, il y a un paradoxe, et même, il faut bien voir aussi que l'État et les préfets ne respectent pas toujours la loi. C'est-à-dire qu'en fait, la directive Habitat, comme je l'ai dit, elle donne la possibilité d'une certaine souplesse, mais encadrée. Et l'État français était censé l'encadrer avec un certain nombre de dispositifs, c'est-à-dire qu'il fallait respecter un certain nombre d'attaques, que les exploitations attaquées aient mis en œuvre un certain nombre de mesures. Et dans ce cadre-là, les tirs pouvaient être autorisés. Or, ce dont on s'est aperçu, c'est que les préfets, notamment en lien avec des pressions politiques locales, notamment quand vous avez des élus très importants qui ont une influence, y compris au plus haut niveau national, eh bien les préfets assez souvent déclenche ces tirs, pas forcément en respectant la loi. Et c'est pour cela que vous avez des associations écologistes qui attaquent, et très souvent, ces associations gagnent auprès du tribunal administratif. Sauf que parfois, eh bien, les loups ont déjà été éliminés.
Il est trop tard. Est-ce que la France pourrait être poursuivie très concrètement? Parce que je rappelle, alors je crois que pour, pour la période 2015-2016, en France, il y a une dérogation pour tuer 36 loups via des arrêtés préfectoraux. Alors certains, effectivement, vous le disiez, considèrent que finalement la France ne respecte pas le droit européen. Je crois même qu'il y a des plaintes qui sont en ce moment devant la Commission européenne. Est-ce que dire que la France pourrait être condamnée par la Commission?
Oui, elle pourrait. Alors c'est très lent, et disons que les autorités françaises le savent, c'est très lent, mais oui, en effet, la France pourrait être condamnée par les autorités européennes. Ça s'est déjà vu dans d'autres dossiers, je pense notamment concernant l'application de la directive sur l'eau, ou même encore plus sur la faune, concernant le grand hamster. Vous savez, le grand hamster, ce petit rongeur préservé qu'on trouve en Alsace, et comme la France n'a pas réussi, n'a pas toujours respecté ses engagements, elle a été menacée d'une amende et la France a été condamnée à ce titre-là. Et disons que si les acteurs favorables à la conservation du loup poursuivent les procédures, il est possible que la France soit condamnée. C'est pour cela que notre ministre Ségolène Royal a demandé récemment, elle aussi, un déclassement du loup en tant qu'espèce protégée. Alors apparemment, elle a même demandé une extension du nombre de tirs. Elle voulait passer à 12 tirs de plus, puis en plus elle s'est ravisée à 6. Et puis apparemment, elle s'est encore ravisée. Mais on sent que notre ministre de l'écologie ne porte pas le loup dans son cœur.
Oui, mais c'est pas la seule d'ailleurs. Ça pousse un peu partout en Europe. Regardez l'Espagne, où là aussi, d'ailleurs, les populations de loups augmentent. On a eu un recensement récemment qui signalait l'existence de 297 meutes de canis lupus Snactus, qui est donc le loup ibérique, contre 250 en 2005. Donc on voit que là aussi ça augmente beaucoup. Et ça, c'est un argument pour le coup la ministre de l'Agriculture, il s'appelle Tejerino, pour faire justement modifier cette directive européenne et pour permettre bien sûr la chasse au loup, peut-être augmenter les quotas, mais aussi peut-être pour aller vers ce fameux déclassement. Alors en face, on a le parti Podemos qui a présenté lui un texte au Parlement espagnol avec d'ailleurs des associations écologistes qui visent à lui renforcer la protection du loup en introduisant l'animal dans la catégorie des espèces en voie d'extinction. Alors on va voir qui gagne. Et vous pensez que Bruxelles pourrait finalement autoriser Madrid d'abord à rouvrir la chasse au loup, en tout cas à augmenter les quotas et surtout à sortir ce loup des espèces protégées? On pourrait y venir? Parce que quand on voit les populations, on se dit que finalement le loup va tellement bien qu'il n'est peut-être plus un animal à protéger. Enfin, c'est une question qui pourrait se poser.
Oui, mais après c'est relatif. Quand on compare la faune sauvage par rapport à la faune domestique, on a le vertige, parce que là on parle de quelques centaines d'exemplaires, mais si on parlait de la faune domestique, ne serait-ce que des chiens, là on serait plutôt au niveau du million d'exemplaires. Alors il est vrai qu'on a du mal à supporter ce retour. Alors il est vrai qu'on a aussi dans beaucoup de pays un certain nombre de signes tout à fait encourageants qui pourraient justifier ce que vous venez de dire. Juste une petite remarque qui est intéressante, c'est qu'en Espagne c'est la ministre de l'Agriculture qui demande ces assouplissements, alors qu'en France c'est la ministre de l'écologie. Donc là, il y a peut-être aussi des questions à se poser. La ministre de l'Agriculture étant, on peut le supposer, dans son rôle. Et celle de l'écologie, on peut questionner. Il est tout à fait... Vu que, comme je voulais montrer, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup montré dans mes recherches, on a affaire en fait à des sujets qui sont certes de biologie, d'écologie, mais ce sont des sujets qui sont politiques et géopolitiques. Et en fait, votre remarque, je n'ai pas de réponse tout à fait tranchée à donner, mais on peut faire des hypothèses. Et l'hypothèse comme quoi... En passant par Bruxelles, Bruxelles pourrait finir par assouplir le statut du loup. C'est tout à fait une éventualité, une possibilité, puisqu'on l'a vu aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui s'est vu aux États-Unis, où le loup faisait partie des espèces protégées puisqu'il a été éradiqué de beaucoup de régions. La loi de protection des espèces de 1973. Et à partir de 2007-2008, en effet, on voit donc l'État fédéral qui laisse aux États fédérés, qui sont très sujets aussi, comme en France au niveau local, aux groupes de pression des éleveurs et des chasseurs, gérer la question. Et bien évidemment, ça a débouché sur un assouplissement et une augmentation des tirs. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de secteurs des États-Unis, les loups sont en train de régresser très sérieusement. Alors certes, en Europe, on a une dynamique qui est plutôt positive, mais cette dynamique, elle a encore une marge de précarité.
Et en même temps, je vais faire un peu de cynisme, Farid Benhamou, vous allez me le permettre, mais on pourrait se dire qu'après tout, les éleveurs ne seraient pas complètement favorable à cette idée du déclassement, parce que ça pourrait aussi mettre fin aux indemnités.
Et oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais bon, alors après, on vous dira que les éleveurs ne recherchent pas les indemnités et s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient. Alors en revanche, ce qui est intéressant.
Mais ça, c'est le discours officiel, mais oui. Est-ce qu'on voit derrière, effectivement, des éleveurs qui disent attention, n'obtenons pas quand même le déclassement parce que ça serait pas bon pour nous? On entend aussi ce discours-là.
Bah, en fait, ce qui est vrai, c'est que certes, le loup et les prédateurs ont représenté une contrainte, mais aussi en France et en Europe, ils ont aussi représenté une série d'aides qu'ils n'auraient pas obtenues s'il n'y avait pas eu le loup. Parce que, en effet, quand vous avez une main-d'œuvre supplémentaire qui est financée, certes, ça vient pour pallier une contrainte, mais cette main-d'œuvre qui est là, elle va faire autre chose, elle va renforcer le soin aux brebis. C'est comme les chiens de protection. Les chiens de protection vont protéger, certes, contre le loup, mais ils vont aussi protéger dans certains secteurs contre les renards, contre les sangliers, contre éventuellement même des voleurs à deux pattes. Donc si vous voulez, même si ces prédateurs et le loup représentent une contrainte, les mesures qui viennent pallier cette contrainte peuvent avoir aussi des bénéfices qui dépassent la simple contrainte.
Là, on ne va pas se faire que des amis, hein, Farid Benhamou.
Non, mais évidemment, mais il faut toujours avoir un constat qui est partagé.
Vous nous rappelez quand même en quelques mots, Farid Benhamou, les conditions à remplir pour qu'un éleveur soit effectivement indemnisé en cas d'attaque de troupeau, que prévoit la directive européenne?
En fait, il faut que la personne se trouve dans un secteur répertorié par l'administration comme une zone à loup et que à la suite de cette attaque, il y a un constat d'attaque qui est fait par un agent assermenté et une fois que déjà on a la preuve comme quoi c'est une attaque de canidés, c'est-à-dire qui est bien visible, hein, parce que à distinguer d'une attaque par exemple d'un ours ou d'un lynx, déjà on a une très forte présomption. Alors et ensuite c'est là que vont venir à la fois des critères techniques et aussi des critères politiques. Parce que bon, quand on a des indices de loups à proximité, c'est très clair, que là, l'indemnisation va être validée au titre de loup non exclu, donc on va valider. Mais vous avez parfois une marge de manœuvre où certes c'est un canidé, mais on ne sait pas savoir si c'est un chien ou un loup. Et alors là, le doute parfois profite à l'éleveur, assez souvent, mais pas toujours. C'est d'ailleurs pour cela que parfois des éleveurs sont mécontents et on peut les comprendre.
Animaux, plaidoyer pour un rugissement, c'est notre sujet cette semaine dans Culture Monde. Aujourd'hui, vivre avec les grands prédateurs. On est avec Farid Benhamou en duplex depuis Poitiers, géographe, chercheur associé à l'université de Poitiers, et puis auteur justement avec Rémi Marion de Géopolitique de l'ours blanc. On va parler justement de l'ours.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Le gouvernement a parlé des quotas et a dit qu'on ne pouvait plus chasser les ours. Ils ont dit que c'était parce que l'espèce est en déclin, mais ici, en ce moment, il y a énormément d'ours, et je ne crois pas qu'ils soient en train de disparaître. Ils viennent juste de compter 11 ours aujourd'hui en ville, et d'autres vont arriver. On vit avec eux, on les chasse, on les mange, on les connaît, on sait où les chasser, où ils seront à cette période de l'année. Nous avons été avec eux toute notre vie. Je dirais qu'ils ne sont pas en danger. C'est juste qu'ils n'étaient pas là quand les scientifiques sont venus pour faire leur enquête, car ils se déplacent beaucoup.
Et il y a quelques années, les États-Unis voulaient que l'ours blanc soit classé espèce menacée d'extinction, ce qui aurait peut-être restreint la possibilité pour les Inuits de les chasser. On va parler désormais de l'ours, quelques 200 000 survivants qui se trouvent du côté de la Russie, près de 30 000 en Amérique du Nord et quasiment 8 000 du côté de l'Europe. On va accueillir un nouvel invité, c'est Rémi Marion, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, réalisateur de films, vous êtes également guide et puis vous êtes co-auteur avec Farid Benhamou, justement, de Géopolitique de l'ours blanc, qui était paru aux éditions S. Alors, on va laisser l'ours blanc pour le moment de côté. On va regarder d'abord ce qui se passe du côté de chez nous. Et quand on pense à l'ours, on pense bien sûr aux Pyrénées. On a 29 ours qui sont recensés aujourd'hui, tous descendants d'ours slovènes qui sont très bien adaptés ici. En mai, d'ailleurs, on a un nouveau mâle qui devrait être introduit du côté espagnol pour éviter trop de consanguinité. Mais en France, c'est vrai que la réintroduction de l'ours, elle est extrêmement délicate. Les oppositions sont très nombreuses. Et pourtant, si leur nombre augmente, on le voit, les dégâts qu'ils provoquent, et notamment sur les bétails, on le disait tout à l'heure avec Farid Benhamou, ils sont relativement modestes. En tout cas, ils ont plutôt tendance à diminuer, justement. Comment expliquer, Rémi Marion, que la cohabitation, finalement, avec les ours soit aussi difficile en France, alors que dans d'autres pays, on peut penser à l'Espagne, on peut penser aussi et peut-être surtout à la Roumanie ou à la Slovénie, ça se passe plutôt pas mal, Rémi Marion.
Oui, alors c'est vrai que le souci en France aussi, c'est que pendant une certaine période, eh bien, on n'avait plus d'ours ou quasiment plus d'ours. Donc évidemment, le pastoralisme, l'agriculture, tout ça s'habitue évidemment et prend des dispositions pour vivre sans les prédateurs. Donc c'est vrai que réintroduire les prédateurs, eh bien, c'est pas sans conséquence pour les gens sur place. C'est évident que ça peut offrir ça peut avoir de nouvelles contraintes. Ça, sans aucun doute. Mais c'est vrai que c'est assez symptomatique de la France, un petit peu aussi de la Suisse d'ailleurs, qui voit de temps en temps revenir des ours et qui a beaucoup de mal à les admettre sur son territoire. Mais c'est vrai que les régions qui ont perdu la présence de ces animaux pendant quelques années, eh bien, c'est un peu plus compliqué.
Et alors, pour le coup, on le voit sur l'Italie, parce qu'on disait tout à l'heure avec Farid Benhamou que finalement en Italie, ça se passait plutôt pas mal, et précisément parce qu'il n'avait jamais totalement disparu. Pour l'ours, c'est très différent, parce que là, on a beaucoup aussi de protestations. Il y avait même eu des manifestations, des événements où on revendiquait la consommation de viande d'ours. Souvenez-vous, en juillet 2011, la Ligue du Nord italienne qui avait organisé ce fameux banquet de viande d'ours. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué pour l'Italie et l'ours.
Non, mais c'est ça. Et après, le cas des prédateurs, et c'est pour ça que c'est très intéressant du point de vue politique et géopolitique, parce que et l'ours en particulier, parce que c'est un animal qui nous accompagne depuis la nuit des temps et qui, suivant les populations, suivant le peuplement et aussi suivant l'instrumentalisation qu'on veut y associer, eh bien, ça peut changer la donne. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au nord du Japon, par exemple, où il y a une assez forte population d'ours bruns. Et où les gens vivent tout à fait bien avec l'ours, ils le chassent, mais il y a une grosse population, ils font tout ce qu'il faut pour maintenir la population, et il y a un grand respect pour l'animal. Et dans d'autres pays, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué, on le voit en Finlande, par exemple, où je vais assez fréquemment, eh bien, il y a des ours, il y a des loups, mais ils ont tué beaucoup de loups récemment, et puis l'ours, on essaie de le maintenir à un niveau quand même relativement faible. Donc c'est vrai que c'est très très particulier à chaque pays, et c'est assez compliqué, je dirais, de généraliser aussi la situation de ces grands prédateurs.
Alors, en tout cas, visiblement, effectivement, dans l'Europe centrale, Roumanie, Bulgarie, Croatie, et puis Slovénie aussi, le paradis des ours, ça se passe plutôt pas mal. Vous nous parliez du Japon, où ça se passe bien aussi. On va parler de l'ours polaire, mais peut-être un mot sur la Russie, parce que l'ours, c'est quand même le symbole de la Russie. C'est le pays où la population est la plus importante, par ailleurs. Le Kamtchatka, qui est donc à l'extrême orient russe, qui s'avance comme ça sur l'océan Pacifique, on a là 15 000 ours quasiment, c'est-à-dire 15% de la totalité de la population d'ours en Russie. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de braconnage et que les ours sont régulièrement pris pour cible. Alors, quelle est la politique de la Russie vis-à-vis des ours? Comment est-ce qu'elle le protège? Et quels sont les moyens, justement, mis en œuvre pour faire respecter cette protection?
Alors moi, je connais particulièrement bien le Kamchatka, et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, vous avez des parcs nationaux qui sont de très grande superficie, avec des gardes qui sont souvent très très motivés, et j'en ai rencontré qui avaient eu l'occasion d'avoir des soucis avec des braconniers, donc ça se termine souvent avec une arme, avec une balle dans le canon. Donc c'est assez compliqué, parce que ce sont des grandes surfaces, et souvent le personnel est assez limité. Il faut bien voir aussi que la chute de l'Union soviétique, donc le passage donc à la Russie, n'a pas été sans conséquence pour un certain nombre de populations, en particulier autochtones, qui se sont retrouvées avec moins de ressources, ou des gens très très isolés, et donc qui ont eu qui se sont dit, on va faire des compléments d'argent en vendant tout ou partie des ours. Donc il y a eu aussi cette problématique. Alors la situation s'améliorant, on va dire, dans certaines zones. Là, le tourisme, d'ailleurs, en particulier d'observation des ours, est en train de se développer au Kamchatka. Donc, je dirais que la situation est plutôt assez favorable. Il y a du braconnage, évidemment, mais il y a aussi des pays, maintenant, qui commencent à prendre des tas de précautions pour éviter que des espèces protégées rentrent sur leur territoire. Et ça, je dirais que ça va plutôt en amélioration. Alors après, évidemment, il y a d'autres des cas un peu pointus sur l'ours polaire qui sont un peu différents. Mais sur l'ours brun, on va dire que pour l'instant, la situation est pas critique, je dirais, en Russie, quoi.
Ouais, le marché de l'ours finalement est en train de se modifier, parce que c'est vrai que c'est aussi ça. Il y a une demande mondiale qui a pour effet finalement de générer ce braconnage. Et si on change peut-être le rapport à l'ours et qu'on développe, disons, le tourisme pour venir observer cet ours, évidemment, les choses vont changer. Parlons justement de l'ours polaire. C'est celui qui, bien sûr, incarne mieux que n'importe quelle autre espèce la victime des activités anthropiques. On le voit comme l'espèce menacée par excellence. D'ailleurs, il est sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais pourtant, ce n'est pas une espèce en voie d'extinction. La population mondiale ne s'effondre pas.
Non, pas du tout. Et les derniers recensements qui ont été faits au mois de novembre, d'ailleurs, ont un petit peu troublé les esprits, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui surfaient presque, hein, des quelques ONG et les zoos aussi, hein, qui surfaient sur les problèmes de menaces évidentes sur l'ours polaire. La menace, elle est bien présente. La banquise est en très mauvais état. Dans certaines régions, du moins, au nord de l'Europe, par exemple, au Spitzberg, mais pas vraiment au nord du Canada. Et donc, ce qui fait que la situation est très disparate pour les 22 à 27 000 ours polaires que compte l'Arctique. Et c'est pour ça aussi, c'est une fois de plus assez compliqué de parler d'une seule espèce, parce qu'en fait il y a des sous-populations qui subissent aussi bien les menaces anthropiques que aussi le réchauffement climatique de façon plus globale. Et donc il faut aussi un petit peu distinguer certains secteurs. Et l'ours polaire est typiquement une espèce qui a été instrumentalisée aussi bien du point de vue politique que du point de vue associatif. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer dans notre livre, que au niveau de la CITES en particulier, les États-Unis, la Russie ont voulu mettre la pression sur le Canada en 2013. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que ce soit à nouveau le cas cette année, pour un petit peu embêter le Canada, qui a absolument besoin de conserver ses populations autochtones et de conserver aussi cette chasse au nord du Canada. Donc ça pose...
D'accord, c'est la raison pour laquelle les États-Unis avaient voulu renforcer la protection vis-à-vis de l'ours. C'était pour embêter le voisin canadien.
C'était clairement ça, oui. Ouais. C'était clairement ça, oui. Et que l'ours polaire, bien, il est vraiment très, très instrumentalisé, parce qu'il y a une espèce de litige aussi entre les États-Unis et le Canada, parce qu'il y a le fameux passage du Nord-Ouest, donc qui est, je dirais, a priori à 100% dans les eaux canadiennes, mais vu qu'il relie deux océans, eh bien, les États-Unis voudraient que ce soit un passage qui soit international et pas simplement canadien, mais les Canadiens ne l'entendent pas comme ça. Mais pour baliser leur territoire, le Canada a absolument besoin de ces populations autochtones et de ces villages qui sont très au nord, et donc de conserver aussi des ressources pour ces populations.
En même temps, on a du mal à croire que les États-Unis aillent au bout des choses, puisque ça serait aussi se tirer une balle dans le pied. L'État de l'Alaska s'oppose vivement à l'inscription de l'ours blanc sur la liste des espèces protégées, parce que notamment, ça serait extrêmement néfaste pour son activité pétrolière de l'État. On sait très bien que sa gouverneure, Sarah Palin, est une fervente opposante à l'ours polaire.
Ah oui, mais aussi, je dirais, les autochtones aussi, quelque part.
Bien sûr.
Et en plus, il faut bien savoir aussi qu'une partie des bénéfices du pétrole de l'Alaska est reversée chaque année à tout habitant de l'Alaska. Donc, tous les habitants de l'Alaska ont tout à fait intérêt à ce que l'exploitation pétrolière continue.
Farid Benhamou, en duplex avec nous depuis Poitiers, réaction sur ce cas de l'ours. Vous connaissez évidemment Rémi Marion, puisque vous avez écrit un ouvrage ensemble. Oui. Farid Benhamou, qu'est-ce que vous voudriez ajouter, peut-être, pour prolonger tout ça?
Sur l'ours brun, d'après les dernières informations que j'avais eues, notamment pour la Slovénie, apparemment, il y a un phénomène particulier qui est en train de se produire en Slovénie, c'est-à-dire qu'on est en train d'y réintroduire des humains dans des grandes zones, des grands massifs forestiers, notamment le secteur de Kočevje, qui était ce fameux paradis des ours. Et comme on est en train d'y réintroduire des humains, notamment des éleveurs, il y a des conflits qui se développent, qui étaient beaucoup moins importants. Et aux grandes dames des chasseurs, qui gèrent, entre guillemets, les ours comme un cheptel, les tirs ont augmenté. Quant à la situation,
d'accord, donc c'est pas aussi paradisiaque que ce que je disais tout à l'heure. Bah, hein.
C'est quand même beaucoup mieux que dans d'autres pays. Ça, c'est très clair. Mais disons que voilà, les situations ne sont pas figées. Quant à pour revenir juste sur l'ours des Pyrénées, en fait, il y a un ours qui a dans son patrimoine génétique la moitié des origines pyrénéennes. C'est-à-dire que On va dire, le patrimoine génétique pyrénéen n'est pas totalement disparu, puisque vous avez le fameux fils de Canel, vous savez, cet ours qui avait été abattu en 2004, qui avait fait grand bruit, qui est en fait un métis entre une pyrénéenne et un ours d'origine slovène. Mais en tout cas, il est vrai que la situation est loin d'être réglée, mais les oppositions sont fluctuantes aussi dans les Pyrénées.
Merci beaucoup en tout cas à Rémi Marion d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai votre ouvrage que vous avez coécrit avec Ferhat Benhamou, Géopolitique de l'ours blanc, c'était aux éditions S. On va, après le cas de l'ours, on va s'intéresser aux requins. Selon les chiffres collectés par l'Université de Floride, il y a eu 98 attaques de requins en 2015, dont 6 mortelles. C'est 10 de plus que l'année précédente, que le record jusqu'ici qui remontait à 2000. La Réunion d'ailleurs avait été, on s'en souvient, le théâtre de plusieurs attaques.
Elle a regardé le coucher de soleil et elle a pris une photo 3 minutes avant l'attaque et après elle a vu l'attaque en direct.
On arrête de dire qu'on est des parents imprudents ou quoi que ce soit, on habite sur une île, il faut qu'on profite de la mer, que tout le monde profite de la mer. Si quelque part on avait pris des mesures au premier, mon fils serait vivant. Tous les autres qui sont morts aussi seraient vivants. Tous les gens qui ont été mutilés seraient entiers aujourd'hui. Moi je dis que l'État est fautif.
Voilà, colère après une attaque de requins du côté de la Réunion. Puis on a eu très récemment aussi la Nouvelle-Calédonie qui a choisi d'interdire les activités nautiques sur la plage de Poé à Bouraï après une attaque mortelle. C'était le 9 avril dernier. Alors comment comprendre cette augmentation et quelles sont les stratégies pour répondre justement à cette menace? Bernard Serré, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'IRD, basé au Musée National d'Histoire Naturelle. Vous êtes un grand spécialiste des requins. Comment comprendre que l'année 2015 ait été la plus désastreuse en termes d'attaque de requins? Est-ce que c'est dû au fait que l'homme vide les océans avec la pêche intensive et que donc les squales manquent de nourriture et donc se rapprochent des côtes? Est-ce que c'est lié au changement climatique? Est-ce que c'est plus simplement le fait qu'il y a de plus en plus de baigneurs et que donc la probabilité d'une attaque augmente mécaniquement? Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Serré?
Alors déjà, effectivement, il y en a un peu plus en 2015 que l'année précédente. Mais attention, pour voir une évolution, on fait pas ça d'une année sur une l'autre, sur l'autre. Il faut regarder, il faut moyenner sur une décennie ou même plus. Alors effectivement, quand on regarde par décennie, il y a une augmentation des attaques de requins dans le monde. Par exemple, dans les années 90-99, on avait une cinquantaine d'attaques par an. Dans la décennie suivante, on en est à 65. Et donc, avec les, si on moyenne sur la décennie qui n'est pas terminée, là, on en est à 80. Donc, il y a une augmentation. Mmh. Et chaque fois que ça a été possible, on a pu faire un parallèle entre l'augmentation de la population des usagers de la mer avec les attaques. Alors ça marche pas toujours, mais dans des cas précis, la plupart des attaques d'ailleurs se produisent en Floride, où là c'est très bien étudié puisque le centre qui compile les données sur les attaques de requins se trouve à Gainesville, et donc ils ont des données fiables. Et là, il y a un parallèle vraiment mathématique entre l'augmentation de la fréquentation du littoral pour différentes activités et le nombre d'attaques.
Alors Bernard Serré, il faut évoquer un certain nombre de cas, on va parler de l'Australie, mais parlons d'abord de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a 50 ans déjà, l'Afrique du Sud avait été le théâtre justement d'une recrudescence d'attaques. Et le pays à l'époque avait répondu en mettant des filets un petit peu partout autour des plages, en tuant d'ailleurs un certain nombre de spécimens. C'est une stratégie qui s'est avérée payante, puisque je crois que les attaques avaient diminué, mais en Afrique du Sud, on est en train de changer un petit peu de stratégie. On remet en cause l'utilité des filets, d'abord parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement meurtriers, et pas seulement d'ailleurs pour les requins. Et on est en train de remplacer les filets par ce qu'on appelle des palangres de surface, des drum lines en anglais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne et est-ce que ça change très concrètement?
Alors, c'est les filets, effectivement, en Afrique du Sud ont été très efficaces. Ça a été une hécatombe. Maintenant, on se pose la question de les remplacer par ces fameuses, en anglais, la drum line. Ce sont des palangres, comme vous dites, mais pas horizontales, mais verticales. C'est-à-dire, c'est une ligne qui est attachée, qui est tendue entre un corps mort et qui est posé au fond, et une bouée, et dessus, vous avez un hameçon, ou plusieurs, mais en général, il y a un hameçon. On choisit la taille de l'hameçon en fonction de la taille des requins qu'on veut attraper, et bien sûr, comme il y a un hameçon qui dit hameçon, dit appât. Donc, on attire. Alors, l'avantage de la drumline, c'est qu'elle est plus sélective que le filet. Le filet, si vous voulez, tout, il prend tout. Tandis qu'avec des hameçons bien étudiés, on peut sélectionner la taille des captures. Mais l'inconvénient aussi, c'est que ces appâts peuvent attirer en même temps. Donc, vous voyez, il y a un peu un effet pervers. Alors, effectivement, ça n'attire pas des requins à des kilomètres, hein, mais il y a cet aspect-là. Et donc, la tendance en Afrique du Sud, c'est de remplacer les filets ou faire un mixte, c'est-à-dire des filets et des drumlines.
Alors dites-moi, quand les requins sont pris dans ces fameuses drumlines, comment est-ce qu'on fait très concrètement pour les libérer ? Il faut quand même qu'il y ait une équipe, des gens, notamment ceux qui sont chargés de la surveillance des côtes, qui descendent, qui mettent la main carrément dans la gueule du requin. C'est quand même une gestion du risque qui pose question pour ces intervenants.
Alors justement, ce qui se passe, c'est que aux événements d'il y a une cinquantaine d'années, donc l'Afrique du Sud a créé une brigade qu'on appelle le Natal Shark Boat, qui est basée à Durban et qui est chargée de protéger un certain nombre de plages avec ses filets. Et donc il y a du personnel, une soixantaine de personnes, et donc qui sortent tous les jours sur des bateaux pour relever les filets, enlever ce qu'il y a dans les filets et les reposer. Donc, ça coûte très, très, très cher. Et c'est pour ça qu'il y a la tendance. Maintenant, ils pêchent toujours des requins. Ils en pêchent beaucoup moins. Moi, je suis sorti deux fois avec eux. J'ai pas eu un seul requin. Mais ils peuvent pas. Si vous voulez, maintenant, ça pose un problème juridique. C'est que s'ils enlèvent les filets et s'il y a un accident, ils seraient responsables de l'attaque. Voilà. Ils pourraient être attaqués juridiquement. Donc, ils continuent à les mettre, même s'il y a des fois, moi, les deux jours où je suis sorti avec eux, on avait surtout des méduses dans les filets, quoi. Donc, vous voyez, ça pose un gros problème parce que ça coûte très cher d'entretenir dès que vous avez du personnel. Bon, les filets coûtent cher, mais dès que vous avez du personnel, et surtout, c'est du salaire, être vital
et
éternel.
Bien sûr, ça coûte
et
très cher.
Ça ne peut être qu'une décision politique.
Ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, que les filets. Alors là, de ce point de vue-là, on peut voir aussi peut-être la réaction du côté de l'Australie, où en 2014, il y avait eu aussi des attaques mortelles, je crois 7 attaques mortelles en l'espace de 3 ans. Et donc, le pays avait lancé un grand programme d'élimination de requins. En gros, je crois qu'on avait permis de tuer tout requin de plus de 3 mètres qui nageait à moins d'un kilomètre des côtes. On a des dizaines de lignes qui avaient été mises à l'eau. Alors, en quelques jours, on a quasiment 200 squales qui avaient été capturés. Et donc c'était d'ailleurs un programme qui avait provoqué beaucoup de débats dans la société. Il y avait beaucoup de manifestations. On a senti d'une certaine manière qu'il y avait aussi derrière tout ça une opération de communication pour peut-être rassurer un peu les gens. Justement, rassurer les gens, Bernard Serré, ça passe peut-être par autre chose. Et ça passe peut-être aussi par l'écotourisme. On voit de plus en plus apparaître des activités destinées à découvrir les requins. On vous emmène au large, on vous équipe de bouteilles, vous descendez à leur rencontre. Alors je parle pas nécessairement de feeding, hein, c'est-à-dire cette activité qui consiste à les nourrir. Mais est-ce que cette sensibilisation, Bernard Serret, à l'animal, au requin, vous semble importante pour justement permettre, in fine, la cohabitation, mieux accepter sa présence, ou au contraire, il vaut mieux faire cet effort de sensibilisation tout en respectant son espace et pas trop multiplier ses activités de rencontre homme-animal?
Oui, tout à fait, parce que, vous savez, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et le fait de rencontrer les animaux dans leur milieu, les requins ou les autres, animaux censés être dangereux, eh bien, ça démystifie un certain nombre de légendes, de concepts. Donc, l'écotourisme basé sur les requins participe en ce sens à l'éducation, à la sensibilisation des gens. Alors, effectivement, ça ne touche qu'une frange de la population, puisqu'il faut au moins savoir nager pour aller les voir, ou plonger, mais on n'est pas obligé d'être plongeur pour faire de l'écotourisme requin. Ça peut se faire avec Palmas Cotuba, par exemple. En Australie, vous citiez l'Australie, il y a un écotourisme sur le requin baleine qui a une bonne image de marque, hein, le requin baleine, puis c'est un requin inoffensif. Et là, vous avez un écotourisme florissant dans le parc de Ningaloo Reef. Alors, l'écotourisme dans d'autres régions, il a un avantage, c'est que on s'est aperçu depuis un certain nombre d'études qu'un requin vivant rapportait plus qu'un requin mort. Quand vous pêchez un requin, vous le vendez une fois, bon. Tandis que si vous le laissez vivant et que vous attirez les touristes pour venir le voir, vous pouvez le vendre durant sa durée de vie qui est à peu près de 25 à 30 ans. Et on a des chiffres très précis maintenant. Ce sont des milliers, voire des centaines de milliers de dollars que ça peut rapporter. Et ça rapporte effectivement au tour opérateur, mais aussi aux populations locales. On a vu des zones où des pêcheurs se sont reconvertis à dans la plongée ou dans la promenade des touristes, etc., dans tout le petit commerce autour, dans les hôtels, etc. Et donc, il y a eu une reconversion de la pêche. Donc, ça participe en même temps à la conservation des requins, mais aussi au maintien des populations humaines.
Oui, effectivement. Il y a le cas aussi, par exemple, des Philippines, à Donzol, où on a les pêcheurs qui sont effectivement reconvertis en moniteurs de plongée et où l'ensemble, en fait,
de la communauté profite, aujourd'hui, ouais, vit grâce à cet écotourisme centré autour de requins. On pourrait même se demander, avec un petit peu de provocation, si finalement les requins ne seraient pas tous morts, s'il n'y avait pas eu tout ce tourisme et tous ces touristes qui payaient pour les voir. Merci beaucoup en tout cas Bernard Serré d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai pour les auditeurs peut-être l'ouvrage qui vient de paraître chez aux éditions Le Lombard. C'est une bande dessinée éducative, justement, on parlait d'éducation, les requins, les connaître pour les comprendre, donc il vient d'être publié aux éditions Le Lombard. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous remercie moi-même.
Dragging out you in a dragon out the dead, singing a mess, you snakes and ladders flip the lid. I pops the cracker, snaps you in the head, snaps you in the neck, kicks you in the teeth, steel toe caps, takes all your credit cards, get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face.
Ouais, d'ailleurs, l'écotourisme, peut-être que c'est quelque chose aussi qui pourrait fonctionner pour le loup. Hein. Farid Benhamou, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en duplex depuis Poitiers.
Merci.
Vous y croyez aussi, le futur du loup passe par le développement de l'écotourisme ? C'est votre avis ?
Pourquoi pas, mais pas seulement. Hein. Pourquoi pas, ça existe dans certains pays, ça existe en Italie, ça est en train de se développer en Allemagne. Un tout petit peu en France, mais c'est toujours assez difficile à quantifier. Donc c'est pour ça que, j'ai pas de point de vue tranché là-dessus.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai votre ouvrage Géopolitique de l'ours blanc, qui est paru aux éditions S. Sur France Culture, vous retrouvez La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant, comme chaque jour sur France Culture, La Vie Moderne. Très belle journée et à demain.